À tous. Je suis présenté, je m'appelle Jean Damécourt et j'ai été ambassadeur en Afghanistan de 2009 à 2008, pardon, à 2011 pendant 3 ans. Expérience qui m'a fortement marqué et dont j'ai gardé un souvenir trépidant et assez extraordinaire. C'est pour ça que je suis là ce soir. J'ai à ma droite Daniel Joanneau, qui est un collègue du Quai d'Orsay, aussi ancien ambassadeur. Qui a été ambassadeur en Afghanistan à peu près pendant la même période,
Pakistan.
au Pakistan, pardon, pendant la même période, mais qui a une carrière très différente. Il a été ambassadeur au Mozambique, au Liban, au Canada. Il a été chef du protocole de la République et aussi inspecteur général du Quai d'Orsay, donc une grande carrière. Et c'est un très, très bon expert du Pakistan. À ma gauche, Olivier Blarel, qui d'abord a le mérite d'être le fils d'un de mes anciens élèves, ce qui ne me rajeunit pas, et qui est surtout ch chargé de mission en Asie du Sud à la DGRIS du ministère de la Défense. Et il a une excellente connaissance de l'Asie, renforcée par de longs séjours dans cette partie du monde, de l'Asie du Sud. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais parler en premier, en essayant d'élargir un peu la vision. Ensuite, Daniel Joanneau interviendra sur le Pakistan, qui joue un rôle absolument essentiel, évidemment, dans ce qui se passe en Afghanistan. Il vous expliquera tout ça. Et ensuite, Olivier Blarel vous fera un tableau détaillé et fouillé de ce qui est arrivé depuis le 31 août dernier. Voilà. Si ça vous va comme ça, on y va. Donc, je crois que pour commencer, ce qu'il faut faire pour comprendre ces pays qu'on connaît mal, enfin, il y a sûrement des gens très experts au milieu de vous, mais en général, en France, on connaît mal ces deux pays, c'est de prendre du recul, de replacer les choses dans une perspective historique et aussi de se pencher sur ce qu'est l'Afghanistan. Donc, la première question que je me pose, dont je vous parle, c'est qu'est-ce que l'Afghanistan? Je vais rappeler quand même. Très rapidement. D'abord, c'est un pays qui est de la taille du Texas ou de la France ou des Dom-Tom, c'est-à-dire c'est un très grand pays, avec une population qui est 2 fois celle des Pays-Bas, aux alentours de 35 millions d'habitants, ce qui n'est pas beaucoup sur un pays aussi grand. Et avec un relief particulièrement tourmenté et montagneux, en fait, il y a seulement 4 zones de plaine. Il y a enfin, c'est impressionnant parce que très souvent, dans les vallées, on ne passe pas d'une vallée à l'autre parce qu'il y a des montagnes de 4 000 ou 5 000 mètres entre les montagnes. Mais c'est surtout, tout le monde vit très très haut dans un pays qui est couvert de neige la moitié de l'année et qui a une période de temps relativement courte pour faire pousser quelque chose ou nourrir les animaux pendant les périodes d'été. Et il y a seulement 4 zones de plaine, les plaines du Nord et de Herat. Vous voyez ça, les plaines du sud autour de Kandahar, le delta du Helmand autour de l'Arche Karga et Jalalabad. Jalalabad a une particularité, c'est un climat quasi tropical qui est exceptionnel dans le pays, mais partout ailleurs, la culture dépend essentiellement de l'arrivée de l'eau. Et il y a de l'eau en quantité astronomique, puisqu'on est en fait dans un contrefort de l'Himalaya. Et ce contrefort de l'Himalaya nourrit tous les fleuves de la région et tous les plus grands fleuves de la région, y compris l'Indus. C'est un pays très enclavé, avec ce relief redoutable, avec donc une caractéristique, c'est qu'en général, d'une vallée à l'autre, les gens ne se connaissent pas très bien. Il y a une culture très forte, propre aux montagnards, une culture dure. Je reviendrai là-dessus. C'est un pays très pauvre. Le PIB est de l'ordre de 30 à 40 milliards. Tous les chiffres que je vous donne sont faux, hein, donc vous venez pas me dire après que vous avez des chiffres différents. Aucun chiffre concernant ce pays ne sont exacts parce que tout simplement, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Grande-Bretagne et il y a énormément de peu de statistiques. Et notamment, toutes les statistiques sur la population sont totalement fausses parce qu'il n'y a jamais eu réellement. On ne sait pas. Pour des raisons politiques, on n'a jamais rien fait, donc on ne sait pas quelle est la population réelle. Par exemple, si je vous dis que 40% de la population est pachtoune, c'est une estimation, que les Tadjiks, c'est aux alentours de 25%. Il y a un Tadjik dans la salle, il va m'expliquer que ce n'est pas suffisant, qu'en fait, il y en a beaucoup plus, peut-être, on ne sait pas. Les Ouzbeks de l'ordre de 12%, et les Hazaras 10%, et tout le reste, c'est 7 à 20 ethnies différentes, parlant des langues différentes et qui sont beaucoup plus petites. Donc, je reviens sur la situation économique. PIB en dollars de 30 à 40 millions de dollars en termes de pouvoir d'achat et de 25 millions en termes de taux de change officiel. Pour une population de 35 millions d'habitants, ça ne fait pas beaucoup d'argent. Le budget, 2,7 milliards de dollars pour ce qu'on appelle le core budget en bon français, c'est-à-dire à peu près un tiers du budget de la ville de Paris. Pas beaucoup. Et encore, j'ai sûrement des chiffres qui datent. Je pense que ça va être encore moins maintenant. Les ressources propres, c'est-à-dire celles qui sont financées par l'Afghanistan elle-même, représentent 1 milliard, 1 milliard de dollars. C'est-à-dire que sur un budget de 2,7, les seules ressources qu'ils ont, c'est des ressources douanières sur les taxes, sur les importations essentiellement de carburant. Le reste, il n'y a pas de système douanier en Afghanistan. Ça représente 1 milliard sur 2,7 milliards. Ça ne les fait pas très, très riches. Et enfin, il faut avoir à l'esprit que pendant très, très longtemps, le déficit de ce budget a été financé par la communauté internationale de l'ordre de 7 à 9 milliards par an. Donc, avec le départ de la communauté internationale, évidemment, les choses sont un peu dramatiques. C'est pour ça que je vous rappelle tout ça. Je vous rappelle aussi, parce que c'est important, que pendant toute la période où j'étais là, l'aide, et jusqu'au départ des Américains, l'aide américaine, alors là aussi les chiffres sont déjà conceptuellement difficiles à comprendre, puisque c'était environ de 1 000 milliards de dollars, ce qui est quand même pas mal. Mais encore, c'est sous-estimé parce qu'ils ont fait des calculs pour savoir ce que ça avait coûté aux États-Unis, et c'est 3 000 milliards de dollars. Donc, les États-Unis ont dépensé sur un pays dont le PIB est de l'ordre de 25 à 30 milliards, des sommes absolument phénoménales. C'est important de le noter parce que ça explique en grande partie tout le phénomène de la corruption qui existe de façon générale, mais qui a été là particulièrement accusé, parce qu'avec des sommes pareilles, c'est évident que ça attire beaucoup de gens. L'aide internationale pendant cette période était de l'ordre de 100 à 5, 150 milliards de dollars, et le seul trafic de la drogue représente un chiffre qu'on incorpore dans le PIB ou qu'on incorpore en partie dans le PIB, qui est de 3 à 4 milliards de dollars. C'est évidemment la fabrication d'opium, mais aussi de cannabis, puisque l'Afghanistan est non seulement le plus grand fabricant au monde d'opium et d'héroïne, mais également le plus grand fabricant au monde de cannabis. Il a battu pour cela certains pays du Maghreb qui étaient très puissants autrefois. Voilà. Alors, un peu d'histoire. C'est un pays très, très, très ancien. Je ne vais pas rentrer en détail parce que ce n'est pas le sujet ce soir. C'est très, très important pour les Afghans parce qu'ils ont une très grande conscience, ce peuple qui est essentiellement, en ce qui concerne en tout cas les Pashtuns et les Tadjiks, pardon, essentiellement indo-européens, c'est-à-dire ce sont nos frères de sang, si on peut dire, est extrêmement fier de son histoire et à juste titre. Ça commence déjà en 550 avant notre ère avec Zarathoustra, qui est un fondateur et réformateur de la religion des Perses, qui était le mazdéisme, et qui est évidemment célèbre à cause essentiellement de Nietzsche, mais enfin, c'est quelqu'un qui est très, très vénéré dans cette région. 250 avant Jésus-Christ, pendant 2 siècles, on a un royaume gréco-bouddhique de Bactriane, qui est l'héritage d'Alexandre, puisque Alexandre avait épousé la fille du roi ou du satrape, très exactement, de Balkh. Et pendant 2 siècles ensuite, les Grecs ont régné sur cette région, d'où la fameuse et célèbre culture du royaume gréco-bouddhique. Et du 1er au 3e siècle également, il y a eu un empire Kushan qui était bouddhiste et qui est à l'origine de toute la structure de la religion bouddhiste, notamment des stupas, des temples tels qu'on les connaît. C'est à partir de là, et c'est parti par les chemins de la route de la soie vers l'Inde et la Chine, mais c'est parti en Afghanistan. Et ça a été très marqué, évidemment, par les périodes précédentes. En 1221, Tamerlan conquit le pays, il démolit totalement. Et à partir de là, on rentre dans une période plus normale, mais il y a une aventure formidable, puisqu'il y a un descendant de Tamerlan qui s'appelle Babur, qui conquiert le pays et qui part avec ses troupes à la conquête de la vallée de l'Indus et du nord de l'Inde et établit l'Empire moghol, lequel Empire moghol, trois générations après, celle de son petit-fils, va reconquérir toute la région et notamment ce qu'on appelle l'Asie centrale, évidemment, et également évidemment l'Afghanistan, mais toute la Perse. Et la Perse de l'époque, c'était énorme. C'était non seulement la Perse actuelle, l'Iran, mais c'était également l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Turquie. Enfin, c'était un empire absolument énorme. Donc, ils sont très fiers de cette histoire, parce que c'est quand même une histoire absolument extraordinaire, des gens qui ont conquis quasiment le monde. Donc, il y a une forte tradition historique et une forte conscience de la culture nationale. Je crois que c'est important de rappeler que c'est un pays qui aime la poésie, la musique, les fleurs et le jardin. C'est un peuple extrêmement religieux. 80% de la population va à la mosquée. Si on compare ce chiffre, par exemple, d'un autre pays théocratique proche de l'Afghanistan, qui est la Perse, en Perse, c'est 30%. Donc, quand on parle d'un régime religieux au pouvoir en Afghanistan, on parle d'un régime religieux au pouvoir. C'est pas la Perse, c'est tout à fait autre chose. C'est pour ça que je parle de ce chiffre, parce qu'il est important. Ils ont une cuisine afghane qui est très raffinée, et finalement, je vous l'ai déjà dit, c'est un peuple très fier et et une nation forte mais éclatée. Il y a une longue tradition de décentralisation, c'est important de savoir, parce que quand les Américains sont arrivés, on a imposé un système à l'occidental centré sur le pouvoir de Kaboul, avec des assemblées, des juges, tout le train-train habituel d'une démocratie occidentale. Et évidemment, ça correspondait à rien qui n'existait avant en Afghanistan. Les rois gouvernaient à l'ancienne, en réunissant des shouras, qui pouvaient être des shouras nationales, avec l'ensemble des représentants des tribus. Et leur grande occupation, c'était de recevoir des délégations et de leur donner de l'argent, de les stipendier, notamment les chefs de tribus et les anciens, de manière à s'assurer qu'ils leur seraient fidèles. Je note au passage que le président Karzai, qui a été probablement un assez bon président, pas vu du point de vue occidental, mais du point de vue afghan en tout cas, était le fils d'un haut personnage qui, auprès du roi Zahir, avait cette fonction et qu'il a assisté toute sa jeunesse à ce que faisait son père. Donc, ce n'est pas par hasard qu'il a fait exactement la même chose quand il était président de la République. Une dernière chose dont je voudrais parler qui est importante, c'est l'importance de la culture du pavot. Les chiffres que je vous ai donnés sont évidemment considérables, mais c'est une culture qui a toujours été pratiquée en Afghanistan et qui est devenue très, très, très importante parce qu'avec le manque d'eau, la guerre et tout ça, c'est devenu très, très, très rentable pour les paysans, notamment dans les plaines de Kandahar et ailleurs, de fabriquer. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus les plus grands fabricants du monde de pavots et bien sûr d'héroïne. Pour le reste, tout commence avec le grand jeu. Alors, je suis désolé, je reviens encore un petit peu en arrière. Le grand jeu, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les Britanniques ont été en compétition très, très, très forte avec les Russes pour la conquête de l'Asie centrale. Ils se sont fait battre par les Russes, qui, eux, occupaient l'Inde, c'était déjà pas mal. Mais ils avaient le souhait de faire la même chose et en tout cas de bloquer les Russes pour qu'ils ne... Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ensuite, évidemment, la frontière de la Russie est arrivée aux frontières de l'Afghanistan et celle de l'Inde arrivait aux frontières de l'Afghanistan. Donc, il y avait un problème. Donc, ils se sont mis dans l'idée de déclarer la guerre au sultan afghan, d'ailleurs, pour le remplacer, et d'envoyer des forces très importantes. Il y avait environ 16 500 personnes qu'ils accompagnaient. Les Afghans se sont débrouillés pour les faire partir de Kaboul. Ils sont repartis vers Jalalabad et les 16 500 personnes ont été massacrées, donc 4 500 soldats de l'armée britannique et 12 000 auxiliaires. C'est probablement la plus grande défaite de l'histoire de la guerre, enfin de l'armée britannique. Bon, évidemment, ils ont pris leur revanche, ils sont revenus après, il y a eu une deuxième guerre et ils ont imposé un traité de Gandamak qui est en fait, faisaient de l'Afghanistan leur protectorat. Mais il y a eu une troisième guerre en août 1919. Là, ils se sont fait battre à nouveau. Et donc, ils ont renoncé, ils ont donné l'indépendance à l'Afghanistan. Je raconte ça, c'est important d'avoir à l'esprit que c'est arrivé une première fois. Ça se reprit, ça se reproduit par la suite, parce que, comme vous le savez, l'Afghanistan a été fortement soumis à tension dans les années 70, au moment où les Américains commençaient à créer l'OTAS pour encercler l'Union soviétique. Le vice-président Nixon est venu en Afghanistan, il a mis une pression absolument à 100 bars sur les Afghans, en l'occurrence c'était le roi Zahir et son premier ministre de l'époque, pour créer une base aérienne, une très importante base militaire pour les Américains, à Kandahar. Ça ne plaisait pas à Daoud, cousin germain du roi, qui a fait un coup d'État et qui a évacué le roi Zahir et pris le pouvoir. Et puis, voyant que la pression américaine continuait à insister, j'espère que je ne suis pas trop pris par le temps, s'il reste 5 minutes, 10 minutes, il s'est tourné vers Moscou, il a été à Moscou, mais ce n'était pas une très très bonne idée, parce que les Russes, à l'époque, ont écouté avec intérêt son récit, se sont dit « bon, les Américains sont en train de mettre la main sur l'Afghanistan ». Et peu de temps après, en 1978, il a été assassiné, remplacé par des communistes. C'est un type qui s'appelait Taraki, qui dirigeait les mouvements communistes à ce moment-là en Afghanistan. Ensuite, Taraki s'est battu avec son associé, qui s'appelait Amin, et il a fait un coup d'État. Ça n'a pas plu aux Soviétiques, qui ont envahi l'Afghanistan. Et c'est à partir de 1979, 10 ans de guerre, avec les Moudjahidines, qui, comme vous le savez, a abouti à une défaite de l'Union soviétique et probablement également à l'effondrement de son régime. Donc on peut dire que vraiment, l'Afghanistan pratique l'enterrement des empires avec une allégresse qui n'a nul égal ailleurs. Bon, l'histoire a continué comme ça, et puis, je raccourcis un peu, les talibans, Najibullah succède pendant quelques temps, tient le coup jusqu'en 92. Puis à partir de 92 à 87, on a une guerre entre les Moudjahidines, entre eux. C'était une guerre civile épouvantable où ils s'entretuent. Et en 1997, les talibans interviennent, chassent les Moudjahidines de Kaboul et prennent le pouvoir. Et donc pendant jusqu'en 2001, et l'intervention américaine que vous connaissez, donc connaissez bien les causes, et en 2001, il se passe 10 ans de présence américaine et internationale. Donc, pendant 40 ans, ce pays a été en guerre. C'est ce que je voulais surtout vous rappeler. Je retrouve un peu le fil de mon histoire. Alors, bien, je crois que quand on en vient un petit peu à la suite, c'est-à-dire la politique américaine pendant cette période de 2001 à leur départ l'année dernière, le 31 août, eh bien, il faut rappeler rapidement qu'elle multiplie les erreurs dès le début, dès le début en 2001. En 2001, les Américains réunissent à Bonn une conférence et ils imposent au pays une constitution qui est une constitution copiée sur la constitution américaine, avec un président élu au suffrage universel, une chambre haute, une chambre basse, un système de justice indépendant, etc., la reconnaissance des droits de l'homme, de la femme et de l'enfant, toutes choses très bien, mais difficile à imposer dans un pays comme je viens de vous le décrire. Et ça commence en 2001 avec le fait que l'intervention américaine à l'époque, après les deux tours, enfin l'attentat des deux tours, avait pour objectif évidemment de punir les talibans et Al-Qaïda. Qu'est-ce que font les Américains? Ils envoient l'équivalent de deux divisions dans ce pays, une intervention aérienne extrêmement technique et très, très pointue. Ils chassent les talibans et Al-Qaïda de Kaboul et du pays. Les talibans et Al-Qaïda prennent la route de la fuite vers le Pakistan. Ils passent à côté de Jalalabad, dans un endroit qui s'appelle Tora Bora. Ceux qui ont vu ça, peut-être se souviennent d'avoir vu à la télévision des bombardements spectaculaires d'énormes bombes américaines. Et ils passent au travers parce qu'en fait, à l'époque, il n'y a que 7 soldats américains entourant des moudjahidines et les guidant à partir des observations aériennes des États-Unis pour les traquer. Ils sont passés absolument au travers, tous les chefs talibans sont passés au travers, et bien sûr, Al-Qaïda aussi. Donc, on peut dire que ça a été quand même une bourde pas mauvaise. Dès le départ, ça continue, parce qu'en fait, ils ont suffisamment d'hommes pour assurer la stabilisation à Kaboul, mais le reste de ces hommes, qui montent peu à peu, 20 000, 10 000, puis jusqu'à 40 000, jusqu'en 2004-2005, sont essentiellement assignés à une PRAC des anciens terroristes, c'est-à-dire d'Al-Qaïda et des talibans. Et ils ne s'occupent absolument pas du pays. Donc il y a une déception formidable dans le pays. À partir de 2004-2005, on voit percoler à nouveau les talibans qui reviennent calmement et qui prennent le pouvoir dans les campagnes. Donc il y a une prise de conscience lente de l'armée américaine, pas tellement des politiques, mais de l'armée américaine, qui fait pression sur le président et sur le Congrès. Et à partir de 2008, il y a une prise de conscience qu'il faut faire quelque chose. Et en 2009, le président Obama fait un grand discours à West Point, qu'on appelle l'appel de West Point, où il dit qu'il va monter la présence américaine à 100 000 hommes, plus 50 000 Européens essentiellement et autres occidentaux, 150 000, et qu'il va battre les talibans, les écraser, mais que les forces américaines ne resteront que pendant 2 ans. Qu'au bout de 2 ans, ils retireront ces forces. Donc il annonce dès le départ à l'insurrection talibane, qui était très à l'aise d'entendre cette nouvelle, que 2 ans après, ils repartaient. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont écrasé effectivement de façon très, très, très efficace les talibans dans la plupart de leurs bases, notamment Kandahar et toute cette région du Helmand. Mais ça a duré 1 ou 2 ans, puis au bout d'un ou deux ans, on a commencé à retirer les forces américaines, et à ce moment, les talibans, évidemment, sont revenus en force. Alors, ce n'était pas le seul à faire ça. Dès que Trump a été élu, critique très vif d'Obama, il a fait exactement la même chose, parce que la première chose qu'il a fait, ça a été d'ouvrir des négociations directes avec les talibans à Doha. Enfin, ça a pris un certain temps, mais il l'a fait très rapidement. Et conclure un accord avec eux, donnant la date du départ des Américains. Et il a donné comme date mai 2021. Donc en mai 2021, les talibans savaient que la chose était réglée. Ils ont invité ensuite les talibans à prendre contact avec le gouvernement officiel de l'Afghanistan pour établir un plan pour partager le pouvoir. Vous imaginez l'enthousiasme avec lequel les deux parties se sont mis à la table. Ils ne se sont jamais parlé, en fait. Ils n'ont jamais réussi à se réunir. Donc deuxième erreur massive. Et puis finalement, Biden est arrivé. Biden n'a pas fait l'erreur. Lui, il avait annoncé qu'il retirait les forces américaines, mais il a simplement transféré la date. Il est passé de mai 2021 à août 2021. Et là, il y a eu quand même des erreurs, mais c'est des erreurs tactiques, si vous voulez. Au moment du départ, les Américains avaient annoncé la date et ils ont fermé la grande base de Kandahar, puis la base la plus proche près de Kaboul, et ils ont finalement replié l'ensemble de leurs forces sur l'aéroport de Kaboul. Et ils n'avaient pas vraiment derrière de quoi soutenir toute éventualité. Et en plus, au moment, en mois d'août, où vraiment ils retiraient leurs forces à l'aéroport de Kaboul, ils ont rapatrié les 15 000 civils qui supportaient une armée ultra moderne de 250 000 hommes à peu près, 235 je crois, qui étaient l'armée et les forces de police, et qui étaient ultra modernes avec des hélicoptères ultra modernes, enfin toutes les armes possibles et imaginables, mais qui ne pouvaient fonctionner qu'évidemment si les gens devaient être formés, ce qu'ils avaient été formés, mais il fallait derrière un support technique qui a été supprimé. y compris d'ailleurs les supports d'observation aérienne, d'intelligence, comme disaient les Américains, et le command and control. Donc, en fait, tout d'un coup, cette armée s'est trouvée dépourvue de tout moyen de fonctionner. Et notamment, il y avait des forces spéciales, je crois que c'était de l'ordre de 30 000 personnes, ce qui était pas mal quand même, très, très bien formées, qui étaient totalement incapables d'opérer. Alors, après, on est rentré dans une réalité afghane, c'est-à-dire qu'en Afghanistan, tout le monde connaît la partie adverse. On a toujours un cousin ou un familier que l'on peut contacter. Et peu à peu, on a vu tomber Herat, Jalalabad, Kandahar, Kunduz, Mazar-e-Sharif et finalement Kaboul, le 15 août. Donc, à la stupéfaction de tout le monde. Alors, il faut rajouter à ça aussi la corruption qui marche pas mal. Dans un pays extrêmement corrompu, tout l'entourage gouvernemental et tout le gouvernement a quitté Kaboul dans des avions. Et tous avaient évidemment fait suffisamment d'économies pour pouvoir s'acheter des appartements ou des maisons à Dubaï ou à Abu Dhabi. Et c'était également vrai des militaires qui, du coup, avaient aussi un petit peu tiré sur la caisse de l'armée, qui n'était peut-être pas aussi bien équipée qu'on pouvait le penser. Juste un mot au passage sur ce que sont les talibans, parce qu'on fait toujours un grand numéro sur les talibans. Les talibans, ce sont des étudiants en religion, arrachés à leurs parents vers l'âge de 7 ans, qui ensuite sont mis dans une madrassa à la frontière du Pakistan. En 43, je crois qu'il y avait 300 ou 800 madrassas, je ne me rappelle plus, à la frontière du Pakistan. Et à l'heure actuelle, il y en a près de 8000. Donc, s'il y a une centaine d'élèves par madrassa, ça fait quand même beaucoup de gens qui sortent. Et donc, il n'y a aucun problème de recrutement pour les talibans. Par ailleurs, ces gens qu'on a sortis de leur enfance et qu'on a élevés dans une madrassa sont extrêmement bien payés, donc ils n'ont aucun problème de recrutement. Mais ils n'ont jamais eu beaucoup d'hommes. Les estimations étaient de l'ordre de 20 à 40 000 hommes, avec un budget estimé à l'ordre de 300 millions. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se finance ou se construit avec une grande difficulté. Donc, ce n'était pas une force particulièrement impressionnante. Alors, pourquoi ont-ils échoué? Ils ont échoué essentiellement parce qu'ils étaient absolument... pourquoi échouent-ils actuellement? Parce qu'on ne peut pas dire que ce soit une grande réussite. Parce que vous pouvez être extrêmement doué pour organiser une guerre terroriste et une campagne quand vous êtes comme un poisson dans l'eau dans la population pachtoune, mais ensuite prendre le pouvoir et gouverner un pays dans lequel, d'ailleurs, la plupart de l'élite a quitté le pays ou a essayé de le quitter, en tout cas, et en imposant en plus la charia au sens strict du terme, vos chances de réussir sont très très faibles. Donc les chances d'une réussite des talibans au pouvoir en Afghanistan ou de réussite élémentaire, puisque ce qu'il s'agit, c'est de faire tourner le pays et de nourrir les gens et d'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir nourrir cette population et faire partir la machine économique. Et c'est évidemment quelque chose qu'ils sont mal équipés pour faire. Voilà, je reviendrai sur d'autres points par la suite et je vais passer la parole à Daniel.